l'aime. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, l'émission, le magazine de Radio Évasion qui noue des relations avec les associations du territoire. Et ces associations parfois tissent des liens entre le passé et le futur. C'est clairement l'objectif d'une de nos partenaires, l'association Lin et Chanvre en Bretagne, que nous recevons régulièrement dans cette émission. Nous avons parlé de la culture du lin qui revient en Finistère. Nous avons parlé du patrimoine, notamment architectural, lié surtout au lin et qui a fait la fortune de notre région. On a aussi évoqué dans notre première émission tous les nouveaux matériaux, les nouveaux procédés qui utilisent le lin ou le chanvre, que ce soit dans le bâtiment, la navigation et le textile, bien sûr. Et donc aujourd'hui, notre émission s'intéresse à la fois à un patrimoine textile, rien de moins que le costume breton, et aussi à des innovations technologiques en lien avec l'impression 3D notamment. Pour parler de tout ça, il y a Ronan Autré qui est référent costume breton au sein de la Fédération Kenleur des danses et musiques traditionnelles, et André Le Gall-Sanquer, la présidente de Lin et Chanvre en Bretagne. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Ronan, j'ai bien prononcé votre nom, non ?
Alors c'est Autrette, mais c'est pas grave.
On va commencer par vous pour la peine. Le lin et le chanvre. Y avait-il du chanvre dans le costume traditionnel breton ?
Oui, puisque à la base, avec la laine, ce sont bien des matériaux que l'on trouve sur le territoire, puisqu'on parle de territoire aujourd'hui, mais c'était quelque chose d'extrêmement important. Donc les nouvelles possibilités au cours du 19e vont évoluer avec l'arrivée du coton, mais le lin et le chanvre sont restés pendant des siècles des éléments majoritaires dans le costume traditionnel.
Ça, alors, j'aurais pas dit comme ça d'instinct, je pensais que c'était d'autres matériaux, ouais, plutôt de la laine, ouais, c'est vrai.
Alors, la laine, forcément, mais la laine, ça coûte relativement cher. Je vous rappelle quand même qu'il y a des grandes familles qui ont fait leur fortune sur la laine, hein, les Médicis en particulier, mais le lin, c'est quelque chose que l'on peut produire aussi et qui a une finesse et qui permet de faire énormément de choses en termes de dessous, de coiffe et d'éléments proches du corps.
Alors justement, on va détailler peut-être. André, vous intervenez quand vous voulez, hein, bien sûr, hein, si vous voulez compléter.
Je ne vais pas hésiter puisque le costume, c'est quand même quelque chose que moi je connais puisque dans le cadre de l'association d'Ourdoune, on a fait un travail avec Ronan d'ailleurs sur le costume à Landerneau. Landerneau étant une ville, entre guillemets, et donc où se côtoyaient les costumes traditionnels, mais aussi les costumes à la française. Donc on a fait un cahier sur le sujet il y a plusieurs années. Et effectivement, avant l'arrivée du coton, de toute façon, on avait ou le lin ou le chanvre, et quelquefois un mélange de lin, de chanvre et de laine, mais il n'y avait pas autre chose, donc c'était forcément ces matières. En sachant que ce sont des matières qui sont restées, alors le lin notamment est resté au niveau des grands couturiers, la matière qu'ils aimaient le plus travailler, parce que c'est une matière qui a une fluidité et un tombant qu'on ne retrouve pas dans le coton, qu'on ne retrouve pas ailleurs, mais Ronan en reparlera tout à l'heure.
Oui, en plus c'est très agréable à porter, paraît-il. Ronan Autrette, peut-être que vous pouvez nous détailler justement comment les matières étaient utilisées dans les différentes pièces du costume.
Alors, il faut imaginer que tout ce qui est pièces de corps sont des choses plutôt blanches, facilement lavables, blanchissables, hein, avec la blanchisseuse, puisque ce sont des choses qui sont utilisées quand même depuis des siècles.
Donc sous-vêtements, là.
Les sous-vêtements, ouais. Oui. Alors, on parle souvent du costume, mais on ne sait jamais ce qu'il y a dessous. Mais il y a quand même des choses dessous. Donc, voilà. Après, sur les pièces qui devaient maintenir le corps, parce qu'aujourd'hui, les femmes portent ce qu'on appelle un soutien-gorge, quelque chose qui va de la poitrine jusque dessous du menton, puisque c'est tout ça la gorge. Mais avant, cette partie-là, le corset ou corselet était porté à l'extérieur par rapport à ça. Donc maintenait le tout. Bien entendu, c'était des étoffes un petit peu plus épaisses, parce qu'il fallait avoir un petit peu de tenue et que l'intégralité soit tenue. La jupe aussi.
Il était en quoi le corset ?
Alors ça pouvait être un lainage, ce qu'on appelle berlinge ou droguet, qui est un mélange de laine et de chanvre. André complétera s'il y a besoin. Et alors que les dessous, on peut avoir des éléments en couleur et en particulier le rouge. Alors pour les femmes en particulier, puisque les jupons rouges permettent de cacher des éléments d'ordre naturel, mais on peut noter ce genre de choses. Oui. Alors on n'avait pas beaucoup de sous-vêtements parce que on dit souvent au XVIIe que plus on avait de sous-vêtements, plus on était volage. Imaginez qu'une paysanne avait peu de sous-vêtements parce qu'elle était une bonne chrétienne.
Peut-être qu'elle n'avait pas les moyens d'avoir trop de sous-vêtements non plus.
Aussi.
Éventuellement. Et d'ailleurs, j'ai une question toute bête, mais le costume breton, en fait, il est attesté depuis quand ?
Alors, on considère que le costume breton est au début du 19e, parce qu'avant, on parle de l'habit, parce qu'on peut retrouver des choses très, très similaires dans une grande partie de l'Europe de l'Ouest, même des fois au-delà. On parle du costume traditionnel breton à partir de 1830, entre 1810 et 1830. C'est vraiment quelque chose qui est appliquer vraiment au territoire et de se dire que c'est quelque chose qui va évoluer tout au long du 19e et vers 1860-1870 on va avoir ce qu'on appelle une fragmentation des modes où les grandes zones et puis même des plus petits terroirs vont se démarquer des autres, en particulier par la coiffe ou par toute une série d'éléments, et en particulier les tissus, puisque la Haute-Bretagne, c'est-à-dire la Bretagne que l'on trouve à l'est, qui est la Bretagne galaise, va avoir des nouveautés un petit peu plus rapidement que la Basse-Bretagne, c'est-à-dire chez nous.
Ah oui, par exemple, les nouveautés quoi.
Les nouveautés, le coton en particulier, courant du 19e avec ces indiennes qui vont arriver déjà depuis un petit moment, mais qui vont au fur et à mesure se donner un petit peu plus loin dans la société civile. Et puis, tout ce qui est les châles de type cachemire, typiquement qui sont là depuis très très longtemps, mais qui vont devenir le grand châle des grandes artisanes, des femmes qui ont aussi plusieurs fermes à leur service.
Il ne faut pas oublier qu'au 18e, nous on a beaucoup travaillé sur le 18e. Au 18e, Landerneau est un port de commerce important. Et toutes ces étoffes qui viennent de l'extérieur arrivent par le port de Landerneau et on les retrouve dans les boutiques. Alors nous, on a travaillé sur les inventaires après décès, le nombre d'étoffes que l'on trouve dans les boutiques. Alors moi, j'ai fait un travail sur un marchand de draps, ce qu'ils appelaient du drap, à Landerneau. Alors, on est étonné par la diversité des matières, mais on est aussi étonné par la diversité des couleurs. La Bretagne triste, grise, noire et blanche, décrite par les voyageurs du 19e, on ne la voit pas du tout au 18e, où on a, comme dit Ronan, les hommes comme les femmes portent des manteaux rouges, jaunes, enfin toutes les couleurs naturelles, mais qui sont quand même très répandues.
Mais au 18e, il est un peu tôt pour parler de costumes bretons.
Mais on ne parle pas de costumes. Dans la description, on a toujours une frustration quand on travaille sur les archives parce qu'on n'a pas de représentation. Donc on a des inventaires de garde-robe, par exemple, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces garde-robes ? Déjà,
c'était des vêtements de fête, mais c'était pas voilà. Y
non,
avait rien
on avait
typique,
on, dans ou... les inventaires, on avait tout. Hein, par contre, que dans certaines familles, on investit dans des vêtements de qualité. On en a peu, mais des vêtements de qualité. Et puis d'autres vont avoir des collections impressionnantes de vêtements, mais qui sont usés, qui sont pas usés. Mais on a toujours On a le descriptif, mais on n'a pas le dessin. Donc ça, c'est quand même une grande frustration. Même la superposition, comme disait Ronan, la superposition des éléments, si on trouve une veste, un gilet, qu'est-ce qu'ils portent ? Et ce sont des choses qu'on a pu trouver dans les procès, parce que dans les procès, on décrit les gens qui sont jugés.
Ah oui, et même
du
leur tenue
coup,
vestimentaire.
On a leur tenue D'accord. vestimentaire est décrite et du coup, on sait qu'ils portent telle et telle chose. Alors, on ne va pas jusqu'au sous-vêtement, je vous rassure.
Non, mais ça les qualifie quand même sur leur niveau, au niveau social, un petit peu, de savoir, parce que courant du 19e, début du 19e, on a aussi beaucoup de couleurs. Hein, ouais. Et le noir s'est imposé par la suite, alors pas tout à fait pour une logique de deuil, hein. C'est parce qu'on a réussi à le fixer. Parce que le noir, c'est toujours...
C'est une des questions que je voulais poser. Comment est-ce qu'on teignait les tissus, en fait
Des matières naturelles, comme dit André.
Colorants naturels, des pigments naturels.
Voilà. Et l'avantage, c'est que donc ça se décolore avec le temps, mais le noir, le pire avec le noir, même encore aujourd'hui, malgré la chimie, vous avez toujours un noir qui va virer sur du jaune, sur du rouge. Avec le soleil ou la lune, quand il se décolore, on voit bien qu'on a une altération et que le noir est bien une superposition d'éléments d'ordre chimique.
Mais quand on a réussi à le fixer, on l'a choisi majoritairement pour quelles raisons ?
Alors, c'est aussi très saillant. Alors, on dit qu'en Bretagne, le deuil, c'est l'absence de couleur. Ce qui n'est pas vrai parce que, par exemple, dans le pays Bigoudin ou dans la Veyne, c'est-à-dire le sud Finistère, les grandes coiffes de deuil pouvaient être dites safranées, c'est-à-dire qu'elles étaient jaunies. Et on connaissait le niveau du deuil aussi en fonction de ces éléments-là. Dans le nord Finistère, on a moins d'éléments par rapport à ça. Et on dit souvent que l'absence donc, de couleurs, noir et blanc, qui ne sont pas des couleurs, c'est un élément du deuil. Mais le noir aussi est extrêmement saillant. Et puis,
c'est élégant, bien sûr. Et qui fixait ces caractéristiques du costume breton? Parce que c'est ça reste un costume religieux, vous me le disiez, mais oui. C'était l'Église qui fixait les critères.
Alors, l'Église et puis les lois, puisqu'avant 1789, il est interdit de porter certaines couleurs, en particulier le vert. Le vert est réservé à la petite noblesse de Bretagne, qui n'est pas très très importante, puisqu'elle n'est pas forcément beaucoup plus riche que les gens qu'elle a sous sa hiérarchie. Mais le vert est interdit. Donc, on a...
Pourquoi
alors, ce sont des couleurs qui ne sont pas autorisées. Ça doit être de beaucoup plus ancien. Il y a des éléments bibliques derrière tout ça. La coiffe, c'est vraiment un élément purement religieux, puisque c'est quelque chose qui va couvrir les cheveux de la femme, puisque selon les trois religions monothéistes, les femmes dans la tradition doivent masquer leurs cheveux, mais ne jamais montrer qu'à leur mari leurs cheveux naturels.
Et justement, la coiffe, elle était en quoi au départ ?
Alors, elle était en lin et elle a évolué avec les nouvelles matières.
Avec les nouvelles matières, avec l'arrivée du coton. Mmh. Donc, notamment les sous-coiffes, même si les coiffes sont restées en lin plus longtemps, les sous-coiffes étaient... qui était un élément de base, était faite en coton, qui était sans doute moins cher. Donc,
oui, pourquoi est-ce que le coton a si bien supplanté le lin ?
Parce qu'il a été produit en quantité et qui traduisait une sorte de modernité. Donc, voilà,
de modernité et de production, parce qu'il faut imaginer quand même que l'empire colonial est relativement important et que la production de coton... permet aussi une diffusion large et massive dans toute la société paysanne, qui est la base de la hiérarchie, parce que sans paysans, vous ne mangez pas. Donc, on a un développement extrêmement important du coton pour une certaine facilité et puis bon marché, quelque chose de très bon marché, le coton.
Parce qu'il était fait par des esclaves, en fait, c'est ça, quoi. Oui, en gros.
Voilà, tout à fait.
Et ça a ruiné quand même, là, des producteurs bretons de lin.
Ah bah les conséquences sociales. Le déclin du lin. Alors, on décrit le déclin du lin au XVIIe, au XVIIIe, mais il faut quand même savoir qu'au XIXe, il y a quand même eu toute la période de mécanisation avec la société linéaire dans le Finistère, mais tous les taillages qui ont fait quand même de la production dans les Côtes d'Armor, même si cela a été ensuite travaillé en Normandie. Mais ça a quand même perduré jusqu'au milieu du XXe. Donc c'est quand même loin, mais en petite quantité. Et là, le coton avait pris toute la place. Il faut dire aussi que le coton permettait ce dont Ronan a parlé, les indiennes. Ces fameuses indiennes qui sont arrivées étaient des tissus qui étaient colorés.
Et ça, le lin ne permettait pas.
On ne savait pas imprimer sur ou tisser du lin de cette façon-là. Non, on ne savait pas. Donc, nous, les femmes, nous sommes peut-être un peu responsables aussi de ça. Parce que... Puis, on avait déjà cette couleur. Le coton était plus blanc. Le lin, on avait, même si on le passait plusieurs fois avec de la cendre de hêtre, on n'avait pas un blanc javel. Hein. C'est même avec la chimie après. Il y a eu des essais, la blanchisserie du lac à Landerneau avait commencé à travailler avec de la chimie. C'était quand même plus compliqué. Donc il y a aussi toutes ces notions de couleurs qui ont fait qu'on s'est tourné vers le coton.
Et en termes de confort, c'est quand même le lin qui l'emporte. Enfin, là, c'est Je ne sais pas si vous serez objectif. Mais...
Alors moi, je ne le suis sûrement pas, mais j'invite tous les auditeurs, s'ils en ont l'occasion, de se glisser dans des draps de lin ou de chambre. Alors aujourd'hui, il y a des techniques qui permettent
d'avoir...
Ah oui, même
d'avoir... le chanvre, ça peut être confortable. Oui,
très confortable. Ouais, j'ai repassé il n'y a pas très longtemps une housse de couette en chanvre, toute neuve, toute belle. Ça ne m'a pas demandé très longtemps. Donc maintenant, il y a des processus qui sont... qui permettent d'avoir du linge qu'on n'a pas besoin de repasser. Je crois qu'il n'y a plus que les Italiens qui nous font un repassage un petit peu glacé, comme on le connaissait avant. Mais ce linge de lit est hyper agréable. Je pense qu'il faut le faire une fois. Après, la marche arrière est difficile. Quand on l'a essayé
en termes thermiques et autres, l'avantage... Du drap ou de la housse de couette en lin.
Mais même les gens qui ont des draps de lin dans leurs armoires, des vieux draps de lin, bon, après, là le pari, c'est d'être obligé de le repasser, c'est un petit peu plus difficile.
Oh, mais on n'est pas obligé, après tout.
Mais pour un...
Qui vient vérifier que votre drap est bien repassé,
hein? Ah, ça peut être un petit plaisir de se mettre dans des draps bien repassés.
Ça peut être un plaisir, mais quand vous le sortez du lavage, quand il est légèrement humide, si vous laissez sur le drap, naturellement séché, il va reprendre ses plis. Voilà.
Et ils vont,
voilà. Oui, parce que bon, qui repasse de nos jours, hein.
Oui.
Bon, les coiffes, il faut quand même les repasser. Je suis désolée.
Moi, alors si,
oui,
mais
les coiffes. Voilà, ouais. Alors les coiffes, justement. Alors là, on va faire le lien entre le passé et le futur. Vous aviez une difficulté pour trouver un élément de la coiffe.
Alors, sur la mode d'artisane, sur la coiffe de la famille des Genoses, qu'on appelle la marmotte à Landerneau, il y a un peigne qui permet de maintenir la coiffe sur la sous-coiffe. Et ça posait des problèmes parce que, en fait, il y a très peu de peignes. Et puis, reproduire des peignes, c'est compliqué. Trouver des artisans qui sont capables de le faire, c'est extrêmement compliqué. Donc, quand en 2015, avec André, on a travaillé sur les cahiers de Bourdon, eh ben André a dit tout de suite, mais on va faire fonctionner la technologie, on va déjà faire une empreinte 3D du peigne existant, qu'on appelle un peigne à l'espagnol, parce qu'en fait ce n'est pas un peigne plat, il est légèrement recourbé, parce que la mode d'artisane n'est pas une mode de paysanne, hein, c'est une mode de ville, elle est un petit peu plus portée sur le haut de la tête, alors que la coiffe de paysanne est beaucoup plus plate, on avait une spécificité là-dessus. Et aussi, je trouvais très intéressant de faire du 3D, parce que ça nous permettait de garder... une authenticité de la pièce avec des coordonnées de maintenant et puis possibilité de faire avec les techniques modernes, le lin en particulier, des nouveaux peignes par la suite.
Mais ces peignes, ils étaient en quoi originellement ?
Alors ce peigne, il est en corne. Donc quand on a travaillé, comme dit Ronan, sur ce sujet-là, quelqu'un nous a prêté un peigne en corne, mais qui était vieux. Et chaque fois qu'on le manipulait, on perdait une dent, ce qui était quand même un peu compliqué.
Ah oui,
donc, on a réussi à remettre les dents à leur place et on a fait faire donc un scan en 3D, effectivement. La difficulté, après, c'est de trouver le matériau qui aille bien avec. Alors,
oui, parce qu'on ne peut pas encore faire... couler de la corne pour faire de l'impression 3D, quoi.
Non, c'est du filament, mais il existe du filament renforcé en fibre de lin qui est fabriqué dans les Côtes d'Armor. Et donc, moi, mon idée, c'était de dire qu'on allait récupérer les capacités de la fibre, qui sont donc la légèreté, la résistance et la souplesse. Et donc, ce qu'on avait imaginé avec Ronan, c'est de pouvoir faire une petite série pour permettre au cercle de faire un essai pour voir si on pouvait refaire un peigne pour les cercles celtiques. Et donc, je trouvais que ça, c'était une bonne idée. Alors, on a fait un essai avec un matériau qui n'était pas le bon. Donc le peigne, il n'a pas été plus solide que le vieux peigne en corne. Donc, ça a
je pas crois
marché.
Encore moins solide parce que c'était un plastique, PET ou quelque chose.
Et donc là, on est en lien avec plusieurs personnes qui font de la recherche et qui pourraient nous aider là-dessus. Mais en tout cas, l'idée de partir du patrimoine et de se servir de la technologie pour des manques au niveau du patrimoine, je trouvais ça quand même une idée intéressante.
Et donc, comment la fibre de lin est utilisée dans l'impression 3D, en fait ? Comment ça fonctionne ?
En fait, il y a un PLA et puis il y a...
C'est quoi un PLA ?
Un PLA, c'est un... comment une résine qui va permettre et dans lequel on va inclure des fibres de lin. Alors cette entreprise, la Nanovia, utilise la fibre de lin oléagineux en fait, parce qu'ils n'ont pas besoin de longueur de fibre, donc ils utilisent la fibre de lin oléagineux, ce qui est quand même intéressant.
Ah bah oui.
Parce que vous savez bien que dans le lin, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Il faut savoir s'en servir.
Oui, mais souvent, ce n'était pas les mêmes variétés, c'est ça. Voilà, c'est-à-dire le lin textile et le lin destiné à la consommation.
Oléagineux, n'est pas le même. Mais bon, c'est ce qu'ils utilisent. Donc voilà, c'est vraiment un matériau qu'ils utilisent régulièrement. Hein, ce filament, ce fil pour imprimante 3D qui est renforcé en fibre de lin. Donc là, nous, on attend... On a fait des demandes, donc on attend. Il y a le Fab Lab de Landerneau, il y a un autre service à côté de Lorient qui cherche aussi. Enfin bon, on va finir par y arriver. On est breton et têtu, donc va tenir bon pour y arriver. Et puis on a vraiment envie d'offrir cette petite série au cercle de Landerneau pour qu'ils fassent des essais, pour que la coiffe de Landerneau retrouve son intégralité.
Et Renaud Autrel, justement, puisque vous suivez le costume qui existe toujours, le costume Breton, il a toujours une histoire en cours. Je suppose qu'on en fabrique toujours. Enfin, je ne sais pas qui.
Ah oui, on en fabrique toujours. Oui.
Et justement, est-ce qu'il n'y a pas une évolution des matériaux ? Alors, dans l'autre sens, entre guillemets, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne revient pas au lin, au chanvre ?
Alors, on revient parce qu'on avait fait une reproduction de costume du 19e sur de travail sur des lithographies. Tout de suite, avec André, j'ai présenté le projet à André qui m'a dit le bragout, là, ce pantalon d'homme, il faut absolument le faire en lin. Et avec Magali Roudot de la commission costume du Cercle, Magali est allée acheter du lin à Paris. On l'a déjà nettoyé, on l'a fait passer pour l'enlever la petite partie d'après qu'on avait. Et c'est vrai que quand ils ont été taillés et mis sur scène, le rendu était impressionnant.
Et le tombé, en fait.
Le tombé était...
La fluidité et le tombé. Ouais. C'est un exemple que moi, je prends souvent quand je fais des conférences sur le lin. C'est incomparable. Vous regardez un cercle de danse, vous voyez les garçons qui dansent avec leur bragout. Le bragout danse avec eux. Alors que si vous avez un bragout en drap, donc en drap, j'entends bien du drap de laine, hein, ou en coton, en fait, il reste statique et il ne suit pas du tout le mouvement. Donc, on a cette fluidité qui a... moi, j'ai toujours entendu dire que il y avait un on appelle ça un tombant en matière de...
Et puis la couleur spécifique, parce qu'un bragout en coton ou en drap blanc sera blanc, alors qu'un vrai bragout en lin, il a ce...
Il garde cette couleur
cette couleur...
Une couleur naturelle, en fait.
Très naturelle.
Parce que là, il n'est pas teint, du coup.
Il n'est pas teint, non.
Et d'accord. Puis l'avantage, quand il fait froid... Vous avez chaud et quand il fait trop chaud, ça s'aère bien. Il suffit de légèrement le secouer et vous avez une fraîcheur qui vient sur les jambes. C'est très agréable.
On sent le vécu.
Alors, il nous reste 3 minutes pour aborder les autres usages du lin, alors textile ou pas d'ailleurs, dans les nouvelles technologies. Enfin, notamment, on a une entreprise dans le Finistère qui s'appelle Kairos, qui est dirigée par Roland Jourdain. Et je crois qu'il a sorti des produits là, intéressants.
Oui, ils ont sorti le Carlin il n'y a pas très longtemps. Mais 3 minutes pour parler des nouvelles technologies.
Je sais, mais on fera une émission.
Il n'y a pas un secteur aujourd'hui où le lin ou le chanvre ne sont pas utilisés. Donc, c'est compliqué. Mais oui, l'entreprise Kairos a sorti le Carlin, qui est un produit... mais je vous en parlerai sûrement mieux que moi, qui est imprimable et donc qui existe en noir, en blanc et en naturel. Et donc ça, c'est intéressant parce que du coup, pour faire de la signalétique, pour faire des panneaux, pour faire de la déco.
Il a même revêtu une voiture, en fait, je crois, en Carlin.
Pour l'instant, le Carlin, si je ne me trompe, n'est pas utilisé à l'extérieur, parce que le Carlin, il a l'avantage, c'est que vous le mettez dans le compost et il retourne à la terre. Donc on a vraiment... C'est aussi l'intérêt du lin et du chanvre dans le nautisme, l'aéronautique, l'automobile, c'est d'avoir des choses qui sont plus propres, qui sont recyclables. Oui. Mm-hmm. Ce qui n'est pas le cas avec le plastique, même si on a aussi le plastique qui est réutilisé quelquefois avec le chanvre, notamment dans les bottes ou dans les chaussures. Enfin, bon, il y a quand même... Mais le champ des possibles est extrêmement large.
Et le chanvre, d'ailleurs, ses qualités physiques, enfin, de structure, c'est quoi ? Il est plutôt utilisé pour quoi, en fait ?
Alors, Le chanvre, le chanvre est utilisé en textile aussi. Hein. Avant l'arrivée du coton, le chanvre était utilisé plus pour des vêtements, pour les vêtements de travail, pour les sacs, pour les cordes, bien sûr.
Ou alors mixte avec la laine pour faire les corsets, c'est ça ?
Mixte avec la laine, mais même pour les vêtements de travail. Hein, c'était utilisé pour les vêtements de travail.
Facile.
Et aujourd'hui, on n'a plus de lin textile, de chanvre textile en Bretagne non plus. Il est beaucoup utilisé dans la construction. Alors, c'est un matériau qui est idéal pour la construction. Hein,
si vous soit les enduits au chanvre ou même carrément le béton de chanvre.
Le béton de chanvre qui est quelque chose de très confortable. Et vous avez des bâtiments qui, du coup, sont confortables.
Pour l'isolation thermique, c'est ça, enfin, la régulation
pour
thermique
Pour la régulation thermique, oui. Mais pour avoir des logements confortables, mais il faut que ce soit massifié si on veut que ce soit accessible à tout le monde et qu'on puisse avoir même des logements sociaux qui soient qui intègrent ces matériaux-là dans la construction. Donc, il y a tout un développement là qui est encore à venir, même si les choses sont en route.
Et nous reparlerons de tout ça dans une prochaine émission, je le sens. Merci vraiment à tous les deux d'être venus, c'était passionnant, une fois de plus. À bientôt.
À bientôt,
au revoir.